Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix pour décortiquer l'actualité de ce vendredi. Vos grandes voix sont là autour de vous. Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir à vous les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous.
Merci d'être à mes côtés en ce vendredi, avec un vendredi chargé, surtout sur le plan politique. On y vient tout de suite avec vous, Mickaël Darmon, à qui je donne la parole parce que on a une date. Ça y est, le 28 juin pour le second tour des municipales. On y est arrivé. Est-ce que c'est la bonne solution? On verra à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est acté.
Oui, c'est acté et c'est réversible. Donc on a compris qu'évidemment, c'est en fonction de la situation sanitaire que l'on dit chaque jour s'améliorant. Ève va certainement nous le confirmer, mais en tout cas, c'est la tendance. Donc, à partir de là, eh bien, on va un peu reprendre quand même la politique. C'est-à-dire que ce deuxième tour des élections municipales, il va quand même aussi, au-delà des péripéties qu'on a connues, il va aussi offrir une nouvelle carte politique. Parce que figurez-vous, quand on regarde un petit peu les enjeux, eh bien, les trois grandes villes de France sont en passe d'être prises par des coalitions gauche-verte. Que ça soit Paris, Lyon et Marseille. Et donc, on a effectivement une nouvelle configuration qui est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est l'enjeu de ce second tour, avec un séisme qui serait que Lyon, peut-être, éventuellement, on verra bien, pourrait être dirigé par des écologistes. Ce qui, pour la première ville macroniste de France, représentera quand même un coup symbolique. Paris, on a compris que, évidemment, la coalition menée par Hidalgo pourrait effectivement, donc une fois de plus, continuer sur un autre mandat. Et puis Marseille, où la gauche est actuellement bien placée et qui pourrait aussi offrir une nouvelle configuration politique. Ce qui serait un signal quand même très particulier, qui montrerait que la poussée des Verts que l'on a vue aux européennes, où en général ce scrutin on le considère comme étanche, eh bien cette fois-ci se confirmerait, permettrait peut-être aux Verts de se structurer en force de gouvernement, ce qui là aussi est une mutation très importante et ferait prendre conscience au grand public que quelque part le macronisme est en train d'être peut-être réduit aux acquêts. En tout cas, sur le plan territorial, c'est difficile pour la majorité de pouvoir installer le macronisme d'en bas.
Alors, élection municipale, second tour 28 juin, et puis après remaniement, vous me le dites dans un petit instant?
Peut-être.
Comme il dit. Non, mais je vous jure. Ève Roger, alors évidemment, c'est municipal, avec toujours cette notion de réversible si, en fonction de la situation sanitaire du pays, et un premier bilan, justement, la semaine prochaine, ça tombe bien.
Bah oui, puisqu'on nous a donné cette date du 2 juin.
Bah oui.
On nous a dit, attention, 2 juin, il y a une nouvelle étape. Donc la nouvelle étape, ça va se passer comment? Comme la dernière fois, vous savez, on nous avait montré des cartes le 7 mai pour le 11 mai.
Exactement.
Et bien là, ça va être à peu près pareil. On va être autour du 28-29 mai, avec des nouvelles cartes qui seront figées au 2 juin.
Voilà.
Et donc la question, c'est évidemment qui va rester en rouge, qui va rester en vert. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont se débloquer. Mmh. Par exemple, aux écoles, on n'en pense jamais, mais que quid des élèves
qui n'ont pas pu reprendre,
3e,
ouais, hein, même des CE1, CE2.
C'est ça, et le bac de français.
Exactement.
Alors c'est là, on va avoir la réponse sur le bac de français.
Et puis les parcs et jardins.
Ah ben voilà, j'allais y arriver, je l'avais noté, je me suis dit, ça va vous faire plaisir. Il va y avoir aussi les restaurants et les bars. Et on a entendu ce matin, enfin on aurait pu l'entendre sur notre antenne, que peut-être que dans les zones rouges, c'est pas sûr. Et qu'est-ce qui restera en rouge? Ça, on se doute quand même qu'il peut y avoir Paris, le Val d'Oise, l'Île-de-France. Ouais. Mais c'est vrai que les restaurants et les bars, ça va être un peu compliqué. Et puis, il y a dans le domaine de la culture, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se débloquer. Vous voyez, les cinémas, ça commence quand même.
On a entendu déjà la date de juillet.
Voilà, début juillet.
Mais effectivement, ça.
Mais c'est vrai qu'il y a des. J'avais pas du tout pensé à ça. J'en ai parlé avec une de mon équipe qui s'occupe de musique. Et les salles de concert, c'est une tannée pour eux. Hein, on peut pas aller dans un concert de rock restant à deux places les uns des autres.
Bien sûr.
Il faut payer les artistes sur scène. Enfin bon, bref, il y a ceux qui vont sans doute perdre à ce petit jeu des couleurs, ce sera plutôt ces salles de concert et puis les théâtres aussi. C'est très compliqué.
Alors, il y a un truc
qui va vous faire plaisir. Ah, on aura peut-être un élargissement des regroupements, vous voyez.
Là, on est à
10 à l'extérieur. Ouais. Peut-être avec un peu de chance, on pourra passer un peu plus.
Bon, alors moi, je vous avoue, ça ne changera pas grand-chose à ma vie, mais ce n'est pas grave.
Non, mais on pourra aller dans les parcs, il y a plusieurs.
Exactement. Emmanuel Dutheil, du côté de chez Renault, on se pose beaucoup de questions. On a entendu Bruno Le Maire ce matin chez Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard. Ce plan d'économie, il sera difficile pour Renault, mais on y tient à l'usine de Flins.
Oui, effectivement, il y avait deux messages dans ce qu'est venu dire ce matin Bruno Le Maire sur l'antenne d'Europe 1. Le premier message, c'est l'avenir de Renault est tout simplement en jeu. Alors, on l'avait dit ici plusieurs fois, mais c'est encore plus fort quand ça sort directement de la bouche du ministre. Donc, si cet avenir est en jeu, il faut trouver le moyen de faire un énorme plan d'économie chez Renault. On comprend bien que les petits sites dont on avait parlé, dont par exemple les fonderies de Bretagne, vont pouvoir fermer. Mais en revanche, effectivement, sur Flin, pas question de fermer l'usine. Mais on a tous entendu ce qu'on avait dit ensemble, hein, il y a déjà quelques jours. C'est-à-dire l'usine de Flin va être reconvertie. Il est fort probable que cette usine ne fabriquera malgré tout plus de voitures. Il faut voir que la déclaration de Bruno Le Maire, c'est une déclaration très politique. Qu'est-ce qu'il est venu faire ce matin? C'est-à-dire que Renault est en train de mettre la toute dernière main à son plan d'économie. Et donc, il est venu fixer les barrières. Attention à ce que vous allez faire. Et également, du côté de Bercy, on estime que peut-être que pour la première fois, on a un moyen réel de pression sur une entreprise française. Parce que qu'est-ce que veut obtenir Bercy? C'est des contreparties à cet énorme plan de réduction, notamment de postes. Et quelles sont les contreparties? Eh bien, Bercy veut absolument que Renault, qui jusque-là l'avait complètement snobé en la matière, participe. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce plan, ce qu'on appelle le plan batterie, c'est-à-dire pour que la France soit autonome sur ses batteries. Et là, très clairement, on entend que Renault serait prié d'entrer dans ce plan s'il veut avoir le fameux plan de 5 milliards d'euros de prêts garantis. C'est toujours pas signé, hein. Et donc là, très clairement, Bruno Le Maire, vous l'avez entendu ce matin sur Europe 1, hein, dit « je pourrais ne pas le signer ». Et à ce moment-là, c'est l'avenir de Renault qui est en jeu.
Ouais, ça s'appelle un peu du chantage, non? Enfin, c'est ce que d'aucuns disent.
Non, ça s'appelle pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est une entreprise dans laquelle on est actionnaire.
Je relais une des critiques, une de l'opposition notamment, hein, je vous demandais.
Oui, mais là, il faut pas oublier qu'on critique souvent l'État français quand il est actionnaire d'une entreprise où, grosso modo, il apprend les nouvelles après la presse. Là, pour une fois, ils sont acteurs, ils jouent leur rôle d'actionnaire dans cette entreprise en fixant les règles. Et puis, ils sont d'autant plus légitimes que ce coup-ci, c'est quand même eux qui vont payer, et nous avec eux. Bon, c'est-à-dire que s'il y a un prêt de 5 milliards d'euros, il ne faut pas oublier de ce prêt et il va falloir le rembourser un jour.
Merci. Alors, on va y retourner, évidemment. Enfin, plutôt, on va aller sur d'autres sujets avec vous. Les grandes voix jusqu'à 19h, c'est sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Et oui, les grandes voix avec Ève Roger, avec qui je vais commencer cette fois, parce que bien sûr on parle des municipales et de l'après avec vous, Mickaël Darmon, dans une seconde, mais les Français s'interrogent beaucoup sur cette hypothétique deuxième vague.
Oui, c'est vrai que...
Y aura-t-il ou pas ?
On n'arrête pas de dire attendons, mais c'est vrai qu'on est là aujourd'hui, on est à presque 10 jours, 12 jours du déconfinement, et c'est vrai qu'on a mené une enquête un peu à Europe 1, les indicateurs sont plutôt tous au vert. C'est-à-dire il y a assez peu de cas, il y a eu 45 clusters, nous dit Santé publique France, mais c'est pas beaucoup, et en plus c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on arrive à remonter les chaînes de transmission, SOS Médecins, c'est 10 fois moins qu'au pic de l'épidémie, les admissions en réanimation, ça ne cesse de baisser, aujourd'hui vous voyez, on est autour de 1700. Donc c'est vrai que on a l'impression quand même que le virus n'est pas très actif. Alors il y a deux hypothèses. Soit c'est trop tôt, donc ça on le saura dès le début de la semaine prochaine, au milieu de semaine prochaine. Soit alors effectivement le virus est en train de finir son parcours, de finir sa petite vie.
Mais alors dans ce cas, comment vous expliquez là typiquement qu'au Brésil, aujourd'hui, ce soit vraiment une situation très critique? Ça veut dire que de toute façon, il se déplace, ça on le savait.
Voilà, et puis c'est par vague. La Chine est passée.
Voilà, tout simplement.
Je ne sais pas si c'est cette hypothèse-là, parce que la première hypothèse est possible, et qu'on sera tous reconfinés la semaine prochaine. Hein. Mais la deuxième, effectivement, il y a cette petite musique qui dit le virus a fini sa course et fini son parcours, et ce qui fait qu'effectivement, il y a cette deuxième vague, elle paraît assez hypothétique. Et c'est vrai qu'il y a au début, c'était plutôt les iconoclastes qui le disaient. Maintenant, on se rend compte que des urgentistes...
De plus en plus, Patrick Pelloux, entre autres, voilà, typiquement, lui, il n'y croit pas. Hein.
Bah, et voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est une histoire de croyance?
Voilà, alors on y croit pas.
Vous êtes quoi? Vous êtes un scientifique, vous, maintenant?
Je ne suis pas scientifique, je tente moi justement d'être un observateur et d'écouter ce qu'on entend et ce qui est dit à l'instant même. Au fond, ça fait maintenant 2 mois que l'on est installé dans l'ère du doute absolu sur tout. Voilà, sur tout. Et comment voulez-vous après asseoir un nouveau projet politique, faire embarquer les Français dans quelque chose qui pourrait être une cohérence et une forme d'espérance, quand on sait ce qu'on vient d'entendre sur le virus, quand on sait qu'à la rentrée, on se retrouve avec des emplois sociaux en cascade, on en a encore parlé, quand on ne sait pas exactement s'il y a une deuxième vague, pas une deuxième vague. Donc, c'est vraiment toute la difficulté de l'époque,
de l'exécutif, comme vous faites le pont. Bah évidemment, Emmanuel Macron, il va falloir à un moment se pencher sur l'avenir. Donc là, post 28 juin, il faut poigner comme ça.
Attention, ne pas trop se pencher.
Exactement.
Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il va falloir lui aussi trouver un nouveau projet.
Exactement, un nouveau projet avec de nouveaux hommes.
avec de nouvelles personnalités autour de lui. On parle beaucoup de Bruno Le Maire pour remplacer Édouard Philippe.
On parle beaucoup de Bruno Le Maire. Alors vous savez, Bruno Le Maire, il a parlé pour une fois, il a parlé de lui ce matin. Voilà,
sur
un peu, à la place de tout le monde. Il a au fond dit ce qu'il dit aussi en privé. D'abord, il considère personnellement que au fond le poste de Premier ministre n'a plus une grande valeur aujourd'hui dans un quinquennat qui met le président en pole position et qu'il ne peut pas y avoir, notamment en temps de crise, deux chefs. Ça c'est effectivement c'est ce qui est dit.
Une petite adresse à Édouard Philippe,
Ou simplement une analyse logique de tout ce qui est dit depuis que le quinquennat est arrivé.
De lecture.
Souvenez-vous, à François Fillon, avec lui, ça ne sert plus à rien, Premier ministre. Donc, globalement, on est sur cette analyse-là. Deuxièmement, il a aussi dit à l'antenne qu'il souhaitait la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et que lui voulait continuer à son poste, a-t-il dit.
Enfin, vous en connaissez qui ont dit qu'ils voulaient prendre le poste du Premier ministre.
Je n'ai pas dit que ce qu'il dit est vrai. Je vous dis que ce qu'il dit actuellement, c'est qu'il fait montre justement d'une forme de persuasion du fait qu'il est très bien là où il est. Alors peut-être qu'il joue un double jeu, ça on verra bien. Et puis après tout, quand un président vient vous dire...
Moi je peux intervenir là-dessus aussi.
Premier ministre, peut-être qu'on ne refuse pas. J'en sais rien. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut entendre aussi une forme de sincérité. Oui. Du fait qu'il se trouve dans un poste à levier, comme il a dit, comme on l'a entendu de la part d'Emmanuel, qui peut-être le satisfait plus que d'aller à Matignon.
Bon, alors Emmanuel Duteil, justement, parce qu'on vous entend presque trépigner, oui, vous pouvez intervenir aussi là-dessus. Bruno Le Maire, qui nous parle aussi des répercussions économiques de la crise sanitaire, ça, évidemment, on va y venir, et puis de son avenir. Alors allez-y, dites-nous, vous.
Oui, mais c'est très intéressant ce que dit Mickaël, parce qu'effectivement, on croit ou on ne croit pas Bruno Le Maire, mais je peux vous dire qu'avant même la crise du Covid, il avait théorisé le fait qu'il fallait rester absolument 5 ans à Bercy, puisque notamment, selon lui, nos problèmes économiques viennent du fait qu'on a changé de premier ministre, on a changé de ministre des Finances et de l'Économie à longueur de temps, et que donc on n'a pas eu de ligne directrice. Et que pour avoir une politique, et il prend, vous allez croire que je suis complètement arc-bouté sur mon histoire des batteries, mais il prend cet exemple des batteries, si on reste pas là longtemps à ce poste-là, c'est impossible de mettre en place une politique commune pour générer un projet d'avenir. Donc, moi, je suis bien évidemment pas dans le secret des dieux de la politique, mais ce dont je suis totalement certain, c'est qu'il est très heureux à son poste et que pendant cette crise... Pardonnez-moi peut-être l'expression que je vais utiliser parce que je pense qu'on s'en serait bien passé, mais il prend un certain plaisir à diriger la partie économique de la France et avec une forme de transparence, parce que autre chose qu'il a pu dire ce matin sur l'antenne d'Europe 1, et je sais pas si beaucoup de ministres de l'économie auraient pu le dire avant, c'est-à-dire que quand il dit qu'on s'attend à des plans de licenciement massifs dans l'économie française, c'est dur à entendre. Alors c'est la réalité, parce que des pans entiers de l'économie sont en train de vaciller. Des pans entiers. Donc c'est la réalité, et lui comme ministre de l'économie, son job, ça va être de tenter de limiter ses plans, et surtout, ce qu'on va devoir inventer aujourd'hui, et qui n'existe pas, c'est comment mieux accompagner ses plans, parce que là on ne peut pas mettre tout le monde au chômage, parce que il faut former les gens 10 fois mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, faut leur trouver des métiers d'avenir, et c'est facile de dire... Il faut, parce que la plupart de toutes ces formations, elles n'existent pas, elles ne sont pas adaptées, elles ne sont pas prévues dans les territoires qui vont être concernés.
Bien sûr. Alors on va revenir à vous, les grandes voix, parce que vous avez plein de choses à dire. Donc on se retrouve dans une dernière partie. Dans quelques secondes, c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Ève Roger, un gros rendez-vous la semaine prochaine, de grosses attentes autour du Ségur de la santé, évidemment. On a bien envie de savoir comment ça va se passer, le mode d'emploi. Évidemment, ça va être compliqué aussi à mener.
Alors là, pour une fois, on va parler de certitude. C'est lundi après-midi, c'est à 15h30, c'est ouvert par le Premier ministre Édouard Philippe. Il y a plus de 200 invitations qui ont été lancées au monde de la santé, pas seulement le monde de l'hôpital, les généralistes. Et donc, ils vont tous discuter, évidemment, des sujets qu'on connaît un peu déjà, c'est-à-dire surtout les salaires,
les
compétences, et surtout sur la gouvernance de l'hôpital. Qui est le patron à l'hôpital? Qui doit diriger l'hôpital? Le rôle des ARS, ces sujets-là, qui sont des sujets difficiles et complexes, dont ils vont parler. Mais ce qui est certain, c'est que là, pour les deux, ils sont verts. Hein, Olivier Véran est en vert et les soignants sont en vert. Alors les soignants, pourquoi ? Ben, on le comprend, hein, ils sont sortis rehaussés de cette crise du Covid, haut la main, la crise a été bien gérée. Et puis ils sont applaudis tous les soirs. Enfin, peut-être un peu moins maintenant.
Ouais, malheureusement.
Et donc ils comptent beaucoup sur le soutien de ceux qui les applaudissaient pour soutenir dans ces rondes de négociations.
Et puis Olivier Véran a déjà ouvert un peu les vannes, il a déjà prévenu.
Ah, c'est l'argent magique. Hein. Voilà. Je crois qu'on a bien compris que ça ne sais pas d'où vient l'argent, mais je pense qu'il a déjà promis aux infirmières, il y en a 250 000 qu'elles remonteraient au niveau du salaire de l'OCDE. Donc en gros, ça fait quand même 400 euros par infirmière, par mois. Hein. Donc ça fait 2 milliards d'euros.
C'est pas négligeable.
Voilà, 2 milliards d'euros.
On les trouve.
Donc je vous dis, là, les indicateurs sont au vert. Après, les négociations vont évidemment se tenir sous la houlette, comme on dit, de Nicole Notat, l'ex-patronne de la CFDT. Et puis on a jusqu'à mi-juillet. Et puis à mi-juillet, il y a la loi de finances rectificative de la Sécurité sociale, du projet de loi de finances. Et pour tout de suite, alors ils l'ont dit, hein, il faut que les soignants nous croient, on va tout de suite leur donner de l'argent. Donc c'est, pour une fois, les choses sont claires.
Voilà, alors on attend quand même la monnaie sonnante et trébuchante, mais ça viendra. Et Nicole Notat et Mickaël Darmon sera à la manœuvre. Nicole Notat, c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié. On va rappeler quand même qu'elle était soutien d'Emmanuel Macron en 2017.
Alors d'abord, c'était la seule femme à diriger en France un syndicat. Donc déjà, on va quand même le rappeler, c'était la CFDT. C'était à l'époque, effectivement, entre autres de 1995, lors des grandes grèves à cause de la réforme de la protection sociale, quand Alain Juppé était à Matignon. Elle avait d'ailleurs soutenu aussi ce plan Juppé. Elle avait quitté en 2002 la Confédération. Après, effectivement, en 2017, le temps a passé. En 2017, elle avait soutenu Emmanuel Macron, était plutôt en réserve de la Macronie, assez discrète. Moi, je l'avais rencontrée à l'époque, peu après l'élection. Elle m'avait dit qu'il faudra aider le président, mais on verra comment. Bon, en clair, elle était en réserve, quelque part, de la République, au moment où il faut sortir le joker, qui est le signal social, qui est le tournant. On est à la fin du quinquennat, et avec tout ce que l'on dit, on voit bien qu'il y a un besoin. Alors, elle va piloter le plan hôpital, mais aussi, surtout, faire une évaluation pour éviter la paupérisation. Mmh. L'année de mission assez précise aussi, pour éviter la paupérisation des personnels soignants. Et ça, c'est faire remonter tout ce que les personnels soignants veulent dire depuis beaucoup de temps et qui n'ont pas obtenu, qui n'arrivent pas à être écoutés. Donc de ce point de vue-là, et au fond, c'est une sorte de médiatrice de l'hôpital. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette demande avait été faite par l'aile gauche de la Macronie, en particulier des députés, dont une qui est passée dans le nouveau groupe depuis quelques jours, Émilie Cariou, qui avait, depuis quelques temps, avait demandé en disant il faudrait qu'il y ait absolument une médiatrice de l'hôpital ou un médiateur de l'hôpital. Ben, voilà, ils sont partis, Macron le fait. Quelque part, il entend les signaux sans leur dire, sans rien dire. On voit bien, pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il est à la recherche, il tâtonne. Ouais. Sur le nouveau projet.
Alors c'est diversement apprécié, hein, la nomination de Nicole Notat. Forcément. Évidemment. Emmanuel Dutheil, un mot peut-être là-dessus, avant de conclure avec vous sur Facebook et le travail.
Oui, effectivement, Nicole Notat, c'est quelqu'un d'assez clivant, même du côté du monde syndical. Alors, si je ne dis pas d'annerie, Mickaël, je crois que la CGC a été dirigée par une femme aussi, il y a de ça quelques années, mais effectivement, c'est la femme la plus emblématique du monde syndical. Et surtout, elle a réussi une reconversion de chef d'entreprise assez impressionnante, puisqu'elle avait monté une agence de notation sur la responsabilité sociale et environnementale. Récemment, elle a aussi travaillé avec Jean-Dominique Senard, qui est maintenant le patron de Renault, à définir finalement à quoi sert une entreprise. Donc effectivement, là aussi, il va falloir réussir une médiation de l'impossible. Mais si par chance, comme disait très bien Yves Roger, il y a un peu d'argent magique au bout de tout ça, ça sera toujours un peu plus simple.
Ouais. Un mot sur Facebook et le travail en quelques secondes.
Oui, parce que c'est dommage qu'il reste que quelques secondes pour ça, parce que c'est passionnant. C'est Facebook vient d'annoncer qu'il pense que d'ici 5 à 10 ans, la quasi-totalité de leurs salariés seront en télétravail. C'est-à-dire que tout va être réinventé si jamais de nombreuses entreprises partent sur cette voie. Parce que ça veut dire qu'on a besoin beaucoup moins de locaux d'entreprise. C'est-à-dire que nous, si on reste travailler à la maison, on n'est pas obligé d'être à côté de notre travail si on n'y va que quelques fois. On peut aller habiter un petit peu plus loin. Si on va habiter un petit peu plus loin et qu'on va que quelques fois au travail, on n'a pas du tout besoin des mêmes voitures. Et un détail, on va finir là-dessus si vous voulez. C'est-à-dire que si je ne vais pas au travail tous les jours, moi aujourd'hui, je suis pas en chemise comme je serais si j'étais avec vous en studio. Oui, mais vous, j'entends Roger là qui est en train de ricaner.
Non, mais vous avez raison.
Mais c'est tout bête. Mais vous savez,
Oui, mais vous savez quoi? C'est-à-dire que derrière, vous faites tomber tous les pressings. Parce qu'ils travaillent de quoi? Uniquement de ce qu'on met pour aller au travail quasiment et des robes de mariée.
Et voilà, donc tout est
On se mariera peut-être toujours, mais on n'ira plus au travail.
Bon, ben voilà, la boucle est bouclée. Bon, merci beaucoup Emmanuel Duteil. Comme ça, on connaît aussi votre tenue du jour et les grandes voix. Merci à vous. Ève Roger, Mickaël Darmon, je précise, Marc Fesneau est votre invité. Et votre invité dimanche, 10h à 11h, le grand rendez-vous sur Europe 1, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci Emmanuel Duteil. À bientôt.
Merci, à lundi.